quand on a commencé le travail avec le début du décor, avec déjà la première idée, c'était de travailler sur le corps cadré, le corps zoomé, sur les lignes, parce qu'on avait, pendant le travail, travaillé sur trois sources. On avait travaillé sur les photos de Francesca Woodman, dont vous voyez en fait pas mal de traces à l'intérieur du travail, notamment avec le costume. On avait travaillé à partir du regard féminin d'Iris Bray, qui est donc un essai, qui est spécialiste du cinéma, qui parle du fameux male gaze dont vous avez certainement entendu parler, et qui définit ce que serait un female gaze au cinéma, c'est-à-dire comment on va cadrer le corps d'une femme sans l'érotiser, et faire en sorte que la personne qui regarde le film soit avec la personne, si elle danse, en train de danser avec elle, en train de ressentir, et non pas juste montrer un corps désirable. Et c'était un vrai enjeu en mise en scène, de se dire je vais montrer une femme qui va parler de son corps et de choses très intimes, et ne jamais l'érotiser, même avec un sein à l'air, même avec en montrant une des parties de son corps. Et la troisième source, c'était un essai d'un anthropologue qui s'appelle François Laplantine, qui a écrit non seulement une anthropologie de la maladie, à partir du spectre littéraire, des médecins auteurs et des malades auteurs. Je dis auteurs, il y a des autrices aussi. L'essai qui nous a vraiment nourris s'appelle « Penser l'intime ». C'est un autre essai de cet anthropologue que je vous invite vraiment à découvrir, qui est super. Et « Penser l'intime », comment on définit l'intime, qu'est-ce que c'est que l'intime? Et quand on a commencé à... Tout ça a fait qu'on a pu créer aussi, inventer une scénographie, inventer un ancrage du corps de Charlotte dans l'espace public. L'idée de l'espace public était très important. Merci. Très important pour moi, parce que cette parole est politique, l'intime est politique, et donc cette parole-là, une femme objectivée, pour une femme, l'espace public pour une femme, c'est toujours un peu la guerre, donc qu'elle s'arrête et qu'elle parle de son corps, et qu'elle dévoile des choses d'elle-même aussi intimes, paraissait très important. On a travaillé sur... j'ai demandé, en fait, on travaille avec La Teline, qui a coproduit le spectacle. Et Marie-Antounès, qui est la directrice, m'a demandé si j'avais envie d'être accompagnée par un œil extérieur. Et j'ai demandé à Yaël Antoine, qui est circassienne, de venir regarder le travail et m'accompagner pendant quelques jours. Et on était à un nœud du spectacle. J'arrivais pas à dépasser une certaine chose, à aller au-delà d'un certain endroit. Et elle me dit, mais est-ce que tu as pensé au rituel? Et elle m'a parlé d'Anaïs à ce moment-là. Elle m'a dit, il faudrait que tu rencontres Anaïs Vaillant. Et en fait, cette entrée-là du rituel a ouvert une porte super féconde qui m'a permis et qui nous a permis, nous, d'aller chercher... voilà. Donc, comme vous voyez, ce rituel-là, contrairement à une femme domestique, c'est plutôt salir, plutôt que ranger. Et je te laisse là.
Bon, c'est si clair, ça oui. Va oui, ça va, c'est pas facile, mais d'arriver comme ça et d'essayer d'apporter un petit regard anthropologique, un pas de côté, comme tu disais. Oui. La question du rituel se pose beaucoup dans l'art aujourd'hui, depuis longtemps, mais aujourd'hui particulièrement. Et d'un point de vue anthropologique, avec mes consoeurs et mes confrères, on remarque quand même une difficulté d'habiter le monde en général. On parle même d'habitabilité problématique. Et moi, là, dans ce récit, ce que je vois, c'est le fait d'habiter son propre corps. On pourrait dire qu'il y a aussi les mêmes difficultés. Et le rituel, c'est un outil, en fait. On pourrait dire un outil, une technologie très, très ancienne qui permet de rendre visible ce qui est invisible. Donc, toutes les choses un peu qui peuvent faire peur, toutes les choses un peu indicibles. Et donc, ça les rend... C'est comme si on les dessinait. Ça permet aussi de sortir du langage. Et le geste a une efficacité, donc ça remet aussi le corps à son endroit de l'efficacité. Ça met le corps à l'endroit du jeu aussi, de rejouer justement un récit qui n'est pas que le nôtre, un récit qui était là avant et qui nous préexistait et qui voilà et qui nous traverse et qu'on rejoue. C'est important le jeu aussi. Et dans le rituel, il y a donc une efficacité magique. Donc qu'est-ce qui fait que on va par un acte magique se transformer quelque part. Moi, j'ai travaillé surtout sur des rituels collectifs comme le carnaval et j'ai retrouvé des éléments aussi du carnaval, de certaines formes de carnaval en tout cas qui se saisissent de vieilles techniques rituelles pour se transformer collectivement quoi, dans l'espace public justement. Et donc pour moi là, tout ce récit c'est comme l'anthropologie. Un récit autre, c'est des récits minoritaires en fait. L'anthropologie, comme la littérature, le théâtre, c'est aussi un espace où on peut apprendre d'autres façons d'habiter le monde, d'autres façons d'habiter le corps, d'autres façons d'écrire l'histoire. Alors moi j'ai bien aimé aussi cette entrée dans l'histoire de la poule, l'historicité aussi de...
Jurassique.
Voilà. Ça, c'est aussi une question très philosophique en ce moment, vous savez, avec Vinciane Després, où il y a des philosophes, des éthologues qui travaillent beaucoup sur, un peu élargir le regard aussi par rapport à ce qu'on appellerait le vivant aujourd'hui, mais en tout cas, les autres espèces, comment on vit avec elles, tous ces liens qui sont un peu effacés, que le rituel peut remettre en jeu. Et donc, la philosophie parle de ça aussi, de comment aujourd'hui en tout cas comment finalement si les animaux pouvaient parler, si les animaux pouvaient écrire, qu'est-ce qu'ils diraient d'eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils diraient aussi de l'humanité. Donc moi j'ai vu ça aussi, tout ça c'est pour l'apéro hein, bien sûr hein. Je vous jette du grain comme ça et puis et moi je me demandais aussi comment s'emparer du rituel sans religion, parce que c'était un peu ça aussi, ce rapport un peu au mystère. Le rituel, finalement, religion ou pas religion, c'est une manière de se rassembler pour rejouer un mystère, quoi.
Voilà. Et prendre les choses qui sont dans son placard, surtout. C'est pas quelque chose qui coûte cher, non plus.
Et j'ai bien aimé aussi cette expression « désobéir au programme », parce que... Justement, c'est aussi la question par rapport aux animaux aujourd'hui, à tout ce qui fait, tout ce qui est vivant et parfois même tout ce qu'on ne sait pas nommer. C'est finalement ce qu'on pourrait appeler de la désobéissance au programme. C'est l'histoire des récalcitrants. Et c'est une histoire qui est peu racontée. Et chez les animaux, encore moins. Quand les animaux sortent du programme, c'est un accident, c'est... Voilà, il a un problème, quoi, mais on ne va pas le voir comme un acte de résistance. Alors que peut-être aussi, on pourrait faire entrer les animaux dans l'histoire de la récalcitrance. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi là, dans ce récit, c'est que ça montre aussi plein de questions anthropologiques sur ce qui est continu et discontinu entre notre corps et l'extérieur. On sait maintenant qu'on est fait de plein d'organismes vivants à l'intérieur de nous. Donc c'est toujours ce rapport à l'altérité que l'anthropologie étudie depuis toujours, mais qui est en train de changer maintenant avec toutes ces questions de rapport au vivant. Et donc finalement, l'altérité, elle est permanente et le mouvement est permanent à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a des tas d'organismes, en fait. Et donc comment cette description du corps... des souffrances finalement, c'est la question que Tristan Garcia aussi, un autre philosophe, se pose. C'est est-ce qu'on peut séparer la vie de la souffrance finalement? Est-ce que quand on aura aboli toutes les souffrances, on sera encore en vie? C'est un peu ça qui le taraude en permanence. Et moi j'ai bien aimé aussi cette histoire de faire parler les organes, et je me dis de faire parler finalement tout ce qui ne parle pas et tout ce qu'on ne voit pas.
Et tu disais c'était sur la récalcitrance. Ouais. Tu étais au Masrazal hier soir et elles ont trois brebis, c'est des amis qui sont sur le Larzac, on jouera le 31 mai là-haut, dans la forêt là, ça sera encore autre chose. Et ils ont trois brebis retraitées qui se sont fait donc tondre toute leur vie et là qui veulent plus.
Mm-hmm. Ah,
C'est-à-dire que dès que elles veulent garder leur laine, quoi. Dès que ça approche le moment de la tonte, c'est elles veulent plus. Voilà, elles ont fini de bosser, quoi. Elles sont vraiment, vraiment à la retraite. Et c'est, on en parlait avec Justine, justement, où elle arrive avec ses ciseaux en disant « Mais si, il faut que je t'enlève un peu de laine, que t'es moins chaud, etc. » Et donc, il y a tout ce rapport-là où, bah non, voilà. Elles ont bien compris qu'elles étaient dans un nouvel espace-temps. Et que c'était fini de se faire exploiter, de se faire toucher, en fait.
Tondre.
Voilà. Tondre. Exploiter.
On était donc sur le Larzac, effectivement, pendant quelques jours, là, avec des anthropologues, des philosophes, et on se posait la question de comment réapprendre, en fait, parce que c'est ça, c'est pas une histoire d'aller chercher dans le passé, reproduire des vieilles traditions, des vieux rituels, c'est qu'est-ce qui nous reste comme outil collectif pour réapprendre à faire que le monde soit habitable, en fait, parce qu'il ne l'est plus trop, enfin, en tout cas de moins en moins, et c'est pas... Donc comment réapprendre ? Il faut inventer forcément avec ce qu'on a. Il faut bricoler quelque chose. Et c'est intéressant de voir aussi que dans les réflexions aujourd'hui qui sont très politiques en anthropologie, tout ce qui va être la recherche avec des artistes, avec des autrices, des auteurs, c'est très précieux parce qu'on est vraiment aux mêmes endroits. On essaye aussi de plus cloisonner le corps scientifique avec le corps artistique. Ça qui nous a coupé de plein de choses. Et il y a un autre philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot qui lui dit qu'on est carrément coupé de la coupure. C'est-à-dire qu'on n'a même plus conscience qu'on est coupé, que la pensée aussi est coupée de l'expérience parfois, alors que bon, elle serait a priori indissociable et on peut l'expérimenter quand même. Oui, c'est être dans l'expérience, ça nous aide à penser souvent. Moi, là, c'est une expérience pour moi d'être là devant vous. Et je me dis, voilà, ma pensée, elle n'est pas assez précise, mais après cette conversation, elle va être encore un peu plus élaborée et peut-être même un peu plus complexe. Peut-être pas plus précise, mais plus complexe. Donc voilà, on parle beaucoup aussi du corps comme, comme dans une pensée matérialiste, on n'a vraiment que ça. Et en même temps, c'est beaucoup de choses. Et c'est ça que le spectacle nous dit. Ce n'est pas que... Tout ce que ça nous crée de dépendance aussi, parce que souvent on parle d'autonomie et de savoir s'autonomiser, mais il y a aussi prendre conscience de cette coupure, se relier à elle, voir quels sont nos attachements et nos dépendances pour recréer aussi un corps social. Se dire que finalement on ne peut pas se détacher complètement d'autres corps humains, que ça a forcément un effet sur tous les autres corps, ce qui se passe à un endroit du monde, sur les corps lointains. Donc, voilà, moi j'ai reçu ça aussi ce matin, et ça faisait vraiment sens avec toutes les réflexions qu'on a eues là-haut sur le Larzac et avec les brebis. Quand tu parles.
Il y a ces liens-là, qu'est-ce qu'elle dit à la fin ? C'est-à-dire, on va. Dans le texte, il y a un moment, quand elle prend vraiment, elle va vraiment dépasser le cadre et vraiment s'en sortir, elle va enlever cette. Même se débarrasser, le rituel lui a permis de dépasser tout ça. Elle comprend, elle dit je me positionne, et ça fait un bien fou. Et elle dit après, tout de suite après, elle va dire on va trouver des nouveaux chemins, on va ouvrir des nouvelles voies pour essayer de cohabiter. Et faire en sorte aussi qu'en trouvant ces voies-là, il y ait moins de douleurs possibles. On peut aussi vivre avec de multiples paradoxes en soi, de multiples problématiques, mais qu'on n'est pas obligé de créer de la violence, ou de la brutalité en tout cas, dans la façon dont on fait nos choix et dont on décide de continuer le chemin, et qu'on soit habité par le doute, parce que on pourrait dire que cette femme qui s'arrête au milieu de la rue, elle est pleine de doutes à ce moment-là de sa vie, dans sa vie. Et que quand la parole sort, en fait, elle va aller dérouler jusqu'au moment où elle va trouver une issue. Et cette issue-là, eh ben, c'est la non-violence. Alors qu'elle est passée par l'expérience du sacrifice, elle a dit tous les mots les plus, elle est vraiment au bout du processus, quoi. Et puis finalement, non. Ses choix, les choix qu'elle fait, les choix qu'elle décide d'avoir à ce moment-là, se font en dépit de ce qu'elle a nommé avant. Et se tromper, c'est pas grave. Enfin, il y a toute cette réflexion-là aussi, toutes les tentatives qu'on a dans notre vie, dans une forme de verticalité, dans une forme de... Oui, de ça va bien, je me sens là. Là, je me sens alignée, quoi.
Et le sacrifice, il est abandonné, mais alors est-ce qu'on peut imaginer, c'est ça aussi la question, c'est est-ce qu'on peut imaginer ces transformations sans, quelque part, abandonner certaines choses? Et finalement, est-ce que c'est pas bien plutôt que de le vivre comme un sacrifice, plutôt le vivre comme se délester de certaines choses? En tout cas, il y a dans les questions de l'habitabilité aujourd'hui, de la terre et du corps, ça parle aussi, le spectacle parle de ça aussi, de ce qu'on appellerait le technosolutionnisme. Comment la technologie, la science va résoudre comme ça les problèmes, qu'ils soient corporels ou écologiques. Les anthropologues se posent vraiment la question de ces autres récits, c'est-à-dire de se dire on ne va pas réparer forcément le monde avec des solutions techniques, et qu'effectivement ça va être plus de l'ordre du récit, ça va être plus de l'ordre de réapprendre des gestes. Alors le rituel il sert à ça aussi, c'est peut-être se transmettre des façons d'avoir des gestes efficaces.
Mais naïfs aussi.
Ou pas, on ne sait pas. Et c'est vrai, ça peut être... vraiment quelque chose de... c'est la question de l'agentivité. Oui, mais dans le jeu, oui. Mais la question de l'agentivité aussi que tu poses. Qu'est-ce que c'est agir, finalement? Comment on est agi? C'est quoi agir? Et c'est pareil, c'est très flou, finalement. Et le spectacle, il raconte ça. C'est comment on est agi et comment on essaye d'agir avec ça. Et pour les éthologues, par exemple, les philosophes comme Vinciane Després, qui est en... Elle dit vraiment qu'il y a tout un flou parfois sur l'agentivité. Et que cette coupure aussi entre être agi et agir, finalement, elle est très fabriquée. Elle donne l'exemple de « je me suis brûlée ». Elle dit « alors qui a brûlé ? Est-ce que c'est... » On dit « je me brûle », mais finalement c'est le feu qui brûle. Est-ce qu'on est brûlé ? Est-ce qu'on se brûle ? Même dans le langage, des fois, on ne sait pas trop.
En tout cas, quelque chose moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est... quand elle pratique le sacrifice sur la poule, qu'elle accompagne dans cette douleur, parce que c'est-à-dire qu'elle fait tout pour que la poule ne souffre pas. Et ça m'a rappelé, parce que ce que tu disais, sur maintenant, je ne suis pas une femme, hein, je n'accoucherai jamais. Mais l'accouchement sans douleur, et que je, sans soin, moi je j'ai extrêmement peur de la souffrance, de la douleur, c'est quelque chose qui me terrifie, et je ferai tout pour ne jamais souffrir et ne jamais avoir de douleur. Mais c'est quelque chose, en même temps comme vous dites, quand on n'aura plus de douleur, dans quel monde vivrons-nous? C'est-à-dire, c'est vrai, sa souffrance, accepter cette souffrance, alors est-ce que le rituel, enfin je sais pas, dans vos connaissances, est-ce que le rituel peut nous aider à dépasser une souffrance sans qu'elle soit aseptisée, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose... sans que ce soit techno-solutionné, exactement. C'est-à-dire que quelque chose, quand on souffre. Je veux dire, j'ai une amie qui est à l'hôpital, et elle a besoin de morphine, on lui donne de la morphine. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose. Et on ne peut pas lutter contre cette souffrance. Ou alors on nous a conditionnés pour ne pas accepter cette douleur. Peut-être que, comme la poule, on avait tous été conditionnés au début. Tu n'es pas fait pour la douleur. Voilà. Enfin, et ouais. Du coup, mais ça questionne beaucoup, hein, parce qu'on se dit, en effet, est-ce que par le collectif, est-ce qu'on peut trouver des... Parce qu'il y a des solutions maintenant, enfin, quand on parle de... Pardon si je parle trop, mais c'est... Non, mais je sais pas, ces mouvements qui font qu'on veut absolument... le transhumanisme, etc., qui travaillent justement sur l'abandon de la souffrance pour ne plus souffrir, quoi. Et on se dit, à côté de ça, on se déshumanise. Enfin, c'est très particulier, parce qu'on se dit, mais quelle est la voie, enfin, où on pourra...
Voilà. Il y en a sûrement plusieurs, il n'y en a pas qu'une, j'imagine. Ouais, ouais. Moi, je vais juste parler du rituel, en tout cas, ce qui est... Il faut effectivement distinguer un rituel du soin. Un rituel, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait pour donner un soin, en tout cas, à quelqu'un, effectivement. Et c'est bien autre chose. Même si ça peut y contribuer, hein, bien sûr. Mais ça rend visible, en fait, ça rend visible des passages. Donc ça accompagne, en fait, ça permet d'accompagner la douleur, je pense.
Et s'il vous plaît, il me semble que vous avez parlé de technique du rituel.
Oui.
Alors brièvement, si vous pouvez nous éclairer sur quelques entrées techniques.
Alors je ne suis pas experte en rituel, mais c'est plutôt des activistes performeurs qui Jay Jordan et Isa Frémo qui disent que le rituel c'est une biotechnologie très ancienne de tissage de liens. Et je me suis dit oui, c'est une forme de technique effectivement. Moi j'ai travaillé sur le rituel carnavalesque et ce qui me plaît dans le rituel c'est pas tant la technique, la technicité on va dire, c'est plus justement le jeu d'un jeu qui est pris au sérieux en fait. Il y a David Graeber, un anthropologue, il dit mais comment avons-nous oublié de jouer en parlant de carnaval, parce que les carnavals sont quand même des traditions qui ont été très récupérées, enfermées aussi. Voilà, donc lui, il parle des carnavals, on va dire, plus spontanés. Et ce qui, moi, m'intéresse dans ça, c'est pas forcément la technicité, c'est plus le côté, c'est la légitimité qu'on peut avoir quand on fait appel à un récit ancien, un récit qui préexiste à nous, quoi. Savoir qu'il était déjà là. Et que ça nous autorise en fait. Ça nous autorise un moment à jouer à quelque chose. Alors à rejouer un mystère, à jouer des liens invisibles avec les morts. À carnaval, on est anonyme, il y a des masques aussi. Donc on s'autorise en fait à être un animal, on s'autorise à être quelqu'un d'autre, on s'autorise à être soi-même. Et donc moi, c'est ça que j'aime, c'est comment, d'une façon assez fine, on va se donner des règles du jeu qui vont nous autoriser à faire des choses que finalement on ne fait pas en temps normal ou qu'on ne s'autorise pas à faire. Et alors on pourrait croire, oui, bah alors on s'autorise un moment puis après c'est fini et finalement ça laisse quand même quelque chose dans nos corps justement et dans notre mémoire. Ce qu'on s'est autorisé à faire, ça peut ressurgir finalement à un autre moment. Donc le rituel c'est aussi un espace un peu temporel, on va dire, où on expérimente quelque chose, on s'autorise à jouer quelque chose, et ça nous donne des billes pour l'expérience, le reste du temps. Je dirais ça.
Et ce qui est intéressant, c'est le regard. Pardon. Je ne sais pas si tu veux parler. J'ai
coupé quelqu'un. Non, je.
Plus, ouais.
C'est ce que ça produit sur ceux qui voient, qui ne sont pas à l'intérieur du rituel, donc, et que ça continue de déranger, en fait, le carnaval. Ça continue d'être... on continue de porter un regard, quand on est extérieur à ça, quelque chose qui dérange quand même. Hein. Il y a l'infraction, l'effraction dans l'espace public, dans le quotidien, d'une personne... qui prend des droits, qui prend ses droits au jeu, ça fera de mal à personne, ça, voilà, c'est elle pète une vitre quoi, mais c'est tout, il y a rien de, et pourtant il y a des gens qui vont écouter ou entendre ou voir en disant c'est d'une violence pas possible, par exemple il y a des gens qui en écoutant le sacrifice ne supportent pas en fait, doivent vraiment se boucher les oreilles parce qu'ils supportent pas la description du décollement du jabot, ça raconte quelque chose aussi sur la coupure, hein, sur le fait de pas savoir qu'une poule, ben on lui coupe le cou, ça doit se travailler quoi, une poule avant qu'elle se retrouve dans un plat. Et cette chose là de non on va, je peux pas supporter d'entendre comment on tue les animaux, ça ben, c'est rigolo quoi. Ça me fait penser à ça, à cette... t'as pas l'impression d'être dans la violence en disant ces mots-là. Enfin, je sais pas. Récemment, j'ai vu un spectacle, quelqu'un qui disait que Jean Genet a écrit un texte sur la différence entre la violence et la brutalité. Et la brutalité, c'est quelque chose. C'est une chose qui va nous heurter. Mais la vie, chaque chose de la vie est violente. Une herbe qui pousse, qui traverse l'écorce terrestre, enfin la terre, c'est violent. Un éclat de rire, c'est violent. Une naissance, c'est violent. La violence en soi, c'est quand les choses nous font violence, par contre, que c'est peut-être. C'est comme dans le carnaval, la vulgarité, la grossièreté, quoi. Il y a quelque chose qui est très différent d'user de son droit à dire la violence, à la nommer. Et pour autant ne pas être dans la brutalité, quoi, vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si c'est.
Moi, je reste sur mon idée de s'autoriser. Et j'aime aussi ces moments-là qu'on est en train de vivre. Là. Parce que le théâtre aussi, dans l'espace public, pour moi, c'est s'autoriser aussi. Autrement, peut-être, que dans une salle. Donc oui, moi, ça me plaît. Ça m'a plu d'entendre, justement, les oiseaux participer. Ça m'a plu de... Pareil, ça n'a pas fait cas scientifique. On ne s'est pas dit « Ah !» Ça nous a fait rire, en fait. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y avait une récalcitrance aussi, quelque chose à dire. Mais pourquoi vous parlez à notre place? En tout cas, on s'autorise à être là tous ensemble. Et c'est... Merci de m'avoir invité. Thank you.